Tu dis où je serais pas dit qu'il y a une gosserie avec son esti de film plat.
Là, t'as dit à moi que tu vas faire tes affaires de ton côté, fait que fais tes affaires de ton côté, puis arrête de faire chier mes amis que t'es des marques. C'est pas une idée de marques,
hey, là. Tu sais, Matt, on se pose tous des questions un jour ou l'autre, hein? C'est ça, la beauté de la jeunesse. Avoir 30 ans. Avoir encore le temps.
Bien, on est en studio avec Xavier Dolan. Vous venez d'entendre la bande-annonce de son prochain film. Mathias et Maxime, bonjour Xavier Dolan.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
Tu connais Catherine Beauchamp,
oui,
évidemment.
Oui, très bien.
Ben, écoute, j'ai vu le film, Catherine a vu le film. Bravo.
Merci.
Écoute, et en te voyant avec ta gang de chums, parce que ces comédiens-là, Gabriel Dalméta-Fredas, Catherine Brunet...
Pierre-Luc Funk.
Pierre-Luc Funk, Adib Al-Khalidé...
Antoine Pilon.
Antoine Pilon.
Samuel Gauthier. En tout cas, eux.
Mais c'est vraiment ta gang d'amis. Et ce que je me demandais, c'est... Écoute, il y a comme un décalage entre venir tourner avec ta gang de chums et ce que tu as fait sur John Donovan. C'est-à-dire que c'est une distribution internationale de gens connus. Qu'est-ce qui est... comment je dirais? Qu'est-ce qui est plus compliqué, gérer ses amis ou gérer des stars internationales?
Il n'y a rien de ça qui est compliqué, en tout cas. Gérer des stars internationales, ça, j'ai tout le temps travaillé avec des amis... ou des gens dont je sentais qu'on pouvait le devenir, tu sais. Puis finalement, à la fin d'un projet, c'est rare que je me suis fait des ennemis, là, tu sais, ou que je me dis, oh mon Dieu, ça plus jamais, ou, donc, l'approche par rapport à ces stars-là, je les ai approchés, je leur ai écrit des lettres, on s'est rencontrés dans la vie privée, on a préparé le film avec Susan Sarandon, avec Kathy Bates. Kathy Bates était pas là en personne, c'était au téléphone, mais Susan Sarandon est venue 2 semaines, 3 semaines avant le début du tournage, travailler avec nous, faire ses essayages, tout ça. Nathalie Portman, c'est une personne à qui j'écris encore aujourd'hui. On se texte, on s'envoie des conneries par, j'ai toujours entretenu un lien proche avec les gens avec qui je crée quelque chose. Soit on l'est déjà a priori, ou soit ça nous rapproche inévitablement pendant qu'on tourne. Mais il n'y avait pas de différence entre mes amis dans la vie, puis eux.
Faut que le courant passe, c'est ça.
Ouais, je pense qu'on a cet a priori là, je pense par rapport aux gens qu'on aime ou qui sont, on se dit ah c'est difficile de travailler avec les gens qu'on aime ou avec les gens qui sont nos amis. Mais franchement, moi j'ai jamais ressenti ça parce que j'ai pas de difficulté à dire à quelqu'un j'aime pas ce que tu viens de faire ou là t'as eu l'air de ça ou fais ça. Ou puis c'est tous des gens qui sont désireux d'être le meilleur possible, d'être au mieux de leur capacité, de leurs compétences, de leurs talents. C'est des gens qui veulent toujours s'améliorer, qui veulent toujours aller plus loin. Moi aussi, je veux toujours m'améliorer puis aller plus loin. Et puis ça, tu le retrouves chez Nathalie Portman, comme chez Anne Dorval, comme chez Catherine Brunet.
Il y avait, j'ai parlé avec Gabriel Dalméta-Fretas, ouais. Et il m'a dit qu'il y avait quand même une certaine indiscipline sur le plateau.
Ouais.
Ça a été dur
c'est
à contrôler.
C'est sûr qu'on niaise un peu, là.
donc, c'est vrai, de travailler entre amis, ça peut amener une certaine
Écoute, je te dirais
insolence.
Je te dirais qu'ils ont rien de... Je vais pas les insulter, mais ils ont rien de spécial dans la mesure où c'est pas la première fois que je déconne sur un plateau, là, avec le chef opérateur, l'équipe. Là, on a nous. C'est une famille de gens. On se retrouve à chaque année et demie, 2 ans pour faire un film ensemble. Puis on a des gags, on a des si on veut, des insides qui reviennent constamment, puis qui... Ou, je dirais pas qu'on manque de rigueur, je dirais qu'on crée dans le plaisir. Moi, j'ai aucune honte à ça, puis je sens pas non plus que je nuis à mon film, tu sais, en m'amusant, en le faisant. On a toujours créé dans le plaisir, puis dans l'humour. C'est ce qui désamorce aussi des choses beaucoup plus intenses qu'on doit faire parfois. Tu sais, des scènes de viol dans une toilette, c'est... Il y a des choses quand même assez denses, assez... je dis ça, c'est une scène dans Mathias et Maxime qui a été coupée, en fait. Mais parfois, je pense qu'il faut s'attaquer à ça avec un peu d'humour pour éviter de se prendre au sérieux, tu sais, puis s'enliser dans quelque chose, une démarche un petit peu trop prétentieuse. Puis avec ces gens-là, évidemment, c'est sûr que c'est facile. Il fallait que, oui, qu'on nous ramène à l'ordre. Mais c'est des jeunes personnes aussi, plus spécifiquement là, les acteurs de Math et Max, qui ont, et premièrement, qui ont beaucoup d'expérience. La plupart sont des enfants acteurs, donc tournent depuis toujours. Ils ont beaucoup de métiers, ils ont beaucoup d'expérience, puis ils sont capables d'un grand professionnalisme. C'est juste que, évidemment, bon, une fois de temps en temps, on s'interrompt pour s'envoyer une petite insulte ou une claque en arrière de la tête, là, mais...
C'est un beau film sur l'amitié, mais j'ai aussi trouvé que c'est un beau film sur la jeunesse. C'est-à-dire qu'ils ont tous autour de la fin de la vingtaine, etc. Puis à un moment donné, il y a un le personnage joué par Gabriel Dalméta-Fretas, qui est destiné à une carrière très sérieuse, se fait dire par un vieux, c'est ça la beauté d'avoir 30 ans, d'avoir le temps. Ouais. Est-ce que tu sens que t'as 30 ans, c'est l'année de tes 30 ans, est-ce que tu sens que le temps, c'est une valeur, disons, qui a plus...
Péremptoire?
Ouais, quelque chose comme ça. Est-ce que tu sens plus le passage du temps que quand t'as commencé ta carrière?
Mais moi, je l'ai toujours senti, le passage du temps. J'ai toujours fait des films qui sont très nostalgiques, qui sont, je veux pas dire mélancoliques, mais qui sont nostalgiques. Tu sais, la nostalgie de choses. Qu'on... En fait, c'est drôle, hein? On pense que la nostalgie, c'est être nostalgique de quelque chose de notre enfance, mais la vraie nostalgie, c'est être nostalgique de quelque chose qu'on n'a jamais vécu, en fait. C'est souhaiter quelque chose qu'on n'aurait jamais vraiment bien vécu. Moi, j'ai été nostalgique de plein de choses dans ma vie. Tu sais, la relation entre Suzanne Clément et Anne Dorval, les femmes amies, l'amitié entre femmes comme ça, l'hilarité entre femmes, la solidarité. J'étais nostalgique de ça, puis c'est empreint de nostalgie, mais c'est pas quelque chose que j'ai vu ou que j'ai vécu dans ma vie. Puis j'ai tout le temps été comme ça. J'ai tout le temps fait des films où on sent le temps qui passe, l'enfance, on regarde des photos de famille, on réalise que ça m'a toujours habité. Mais c'est sûr que plus je vieillis, plus je réalise que Et dernièrement, j'ai reconnecté avec une amie sur Messenger, sur Facebook. Puis j'étais à l'école secondaire avec elle, puis ça faisait une éternité qu'on s'était pas parlé. On n'était pas en mauvais terme, mais on a suivi des chemins différents, puis nos chemins se sont séparés. Puis là, ça devait faire peut-être 6-7 ans qu'on s'était pas parlé vraiment, tu sais, des vraies choses, puis tout ça. Puis, ben, ça commençait par un commentaire niaiseux, puis à un moment donné, elle m'a fait un espèce de long rapport, tu sais, de ce qu'était devenu sa vie. Ben, moi, je suis là, j'habite là, j'ai fait ça, j'ai eu tel chum, j'ai vécu telle chose, puis j'ai fait la même chose, puis à la fin, j'ai dit, c'est drôle parce que je m'en vais dans un endroit présentement où j'étais. La dernière fois que j'ai mis les pieds, je me rendais à la campagne pour un photoshoot. Puis j'ai juste dit, la dernière fois que je suis allé là, c'était il y a 7 ans. Puis je venais de tomber follement amoureux de quelqu'un. Je ne savais pas encore à quel point j'allais être amoureux de cette personne-là. Ça fait déjà 7 ans, 8 ans, je me souviens plus. Puis le temps passe vite, mon Dieu, on nous avait prévenus, tu sais. Puis j'en ai toujours été conscient, mais c'est sûr que maintenant, à 30 ans, je le vois, je sens que je suis jeune encore. Je ne suis pas idiot, je sais que je suis jeune, j'ai juste 30 ans. Mais je sais aussi que c'est plus moi le jeune.
Ouais, c'est plus... C'est tough, ça?
C'est pas tough du tout, mais je vois qu'il y a une jeunesse qui se met en place avec ses nouveaux codes, son humour, sa liberté aussi, sexuelle, identitaire. C'est une jeunesse à laquelle on peut trouver bien des défauts. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette jeunesse-là, comme la mienne, comme la vôtre, j'ai l'impression, a jamais ressenti le fardeau des étiquettes puis de devoir se caser dans une catégorie rapidement puis de façon stricte. Puis, tu sais, même moi, aujourd'hui, j'ai pas la liberté de me dire sexuellement, coudonc, est-ce que je pourrais aller voir ailleurs? Est-ce que je pourrais essayer autre chose? Je m'en sens pas capable. Est-ce que c'est un blocage psychologique? Puis cette jeune génération-là, tu sens sa liberté. Tu sens qu'elle est assoiffée de liberté. Puis ça me fait sentir vieux.
Mais c'est drôle parce que tu parles rarement, tu parles de tes amis, tu parles rarement de tes amours. C'est vraiment une chasse gardée chez toi? Ça ouvrira jamais?
C'est pas que j'en parle pas énormément, c'est que j'en vis pas énormément. T'sais, j'ai eu quelques grandes histoires d'amour des grandes histoires d'amour, je te dis ça, puis ça dépend de ta définition des grandes histoires d'amour. Pour moi, souvent, ça a été des amours qui étaient pas réciproques, des gens que j'ai, je veux pas dire persécutés, parce que j'ai l'air d'un estime malade, mais des gens que j'ai pourchassés amoureusement, tu sais, que j'ai même espionné, dont je voulais être proche, dont je voulais me rapprocher, que je voulais donc qu'ils m'aiment. Ça fonctionnait pas.
Tu dois avoir beaucoup de groupies autour de toi aussi qui veulent t'aimer, mais qui te magnifient.
C'est très difficile, si tu veux, maintenant, à mon âge. Puis là, je te parle pas d'âge, je te parle à mon âge, dans ma carrière, dans ma vie. C'est très difficile de savoir qui veut quoi, qui est là pour quoi. Pour moi, pour ce que je peux leur... Puis tu sais, moi, je tombe beaucoup amoureux d'acteurs. Les acteurs, tu sais, souvent peuvent vouloir des rôles ou peuvent vouloir des... C'est quelque chose, quand on l'entend, qui a l'air prétentieux pour les gens qui l'entendent, mais ils pourront pas comprendre ou peut-être jamais comprendre c'est quoi se trouver dans cette position-là. Où les gens veulent quelque chose de toi.
À te demander, est-ce que c'est un intérêt réel ou il y a un motif ultérieur?
Bien sûr. Puis souvent, la réponse n'est jamais noire ou blanche. On est tout le temps dans une zone grise. C'est que c'est un petit peu des deux. Mais de pouvoir rencontrer quelqu'un, tu sais, qui comprend c'est quoi cette carrière-là. Voyager, faire des films, disparaître des fois parce qu'on écrit, puis qu'on n'a pas le temps de, puis qu'on rentre d'un voyage de 2 semaines, puis qu'on n'a pas envie de faire l'amour avec quelqu'un quand on rentre le soir, qu'on s'est lassé de quelqu'un sexuellement. Comment expliquer ça à quelqu'un? Faut que quelqu'un partage un peu cette vie-là, un peu folle pour comprendre. Puis des gens qui partagent cette vie folle-là, mais il n'y en a pas autour de moi.
Est-ce que tu as monté la garde autour de toi?
Mais mes amis sont très protecteurs de moi. T'sais, quand je dis ah,
comment ils te protègent?
Ben, je dis ah, j'ai rencontré un gars, nanan, ils font ok, il fait quoi, qu'est-ce qu'il veut? mes amis sont, puis je leur en suis, c'est très touchant, tu sais, Catherine Brunet peut bondir comme une lionne sur quelqu'un parce qu'elle sent que cette personne-là est plus abusive ou plus opportuniste ou mais en même temps, tu sais, ce qui est terrible pour moi, c'est que moi, je m'installe à Montréal, puis je suis québécois, puis j'ai pas des grandes ambitions de déménager à Hollywood ou Paris. Ou les gens me disent tout le temps, ah, tu es encore à Montréal. Quand est-ce que tu t'installes à Paris? Ben jamais, Chris, dans une ville où est-ce qu'il y a juste des bouchons puis du monde qui me parle bête. Tu sais, je vais rester ici. Je me suis acheté une maison. Mes amis sont là, ma famille est là. Je suis ici, chez moi, à Montréal, puis je bouge pas d'ici.
Mais réalises-tu à quel point t'es riche d'avoir ces gens-là autour de toi qui t'aiment pour ce que t'es dans la position qui est la tienne.
Mais tu comprends que ces gens-là ont remplacé dans ma vie les amours que j'ai pas, là, tu sais. Moi, je suis en amour avec mes amis. Ces gens-là, pour moi, c'est plus fort que des relations amoureuses qui s'étiolent avec le temps puis dont on fait semblant que ça continue à être fort alors qu'on sait très bien que passer les premiers moments, les premiers instants, ben on tombe dans une routine, on tombe dans un confort, puis dans un... C'est pas toujours comme ça, je suis pas amer hein, de l'amour, je suis pas amer de pas avoir de personne dans ma vie présentement. C'est juste que je constate qu'il y a un théorème un peu d'impossibilité où ce que je recherche, c'est ailleurs, c'est à Los Angeles ou à Paris, où les gens ont des carrières semblables, puis où les gens ont... En même temps, je veux rien savoir de vivre là, puis j'ai pas envie de passer ma vie dans un avion pour aller rejoindre quelqu'un. Fait que...
Vous avez reconnu sa voix, c'est Xavier Dolan. On va le garder pour le retrouver tout de suite après la pause. De retour avec Xavier Dolan, qui présente le 9 octobre son nouveau film, Mathias et Maxime. Xavier, juste avant qu'on parte pour la pause, tu parlais d'amour, t'étais intarissable. Il peut avoir cette perception-là, parce que t'es beau, tu gagnes bien ta vie, t'as cette célébrité dans deux univers, anglo-saxon, français, québécois, etc., que pour toi, l'amour, c'est facile. Puis ce que je comprends, c'est que c'est pas si facile.
Ben non, c'est pas si facile parce que, c'est ça, comme je vous disais, c'est difficile de trouver des gens qui correspondent, en fait, qui comprennent mon rythme de vie, qui le partagent aussi. Puis, comme je disais, j'ai pas envie de passer ma vie dans un avion à aller, tu sais, comme retrouver quelqu'un, tu sais, oui, qui a cette carrière-là ou qui a une plus grosse carrière que moi. Des fois, je me dis, faudrait que je sois avec quelqu'un de bien plus connu. Tu sais, moi, je suis pas si connu, finalement, à une certaine échelle, puis il y a des gens qui le sont bien plus, puis c'est pas que je veux être leur groupie, c'est que je me dis, au moins, j'aurais jamais besoin de leur expliquer, tu sais, ce que c'est. Puis, donc, ça fait en sorte que, tu sais, c'est sûr, je sortirais pas dans un bar, tu sais, un soir, faire « Hey, tu sais, veux-tu un verre, puis on pourrait être un couple », tu sais, ça fonctionne pas comme ça. Pour moi, l'amour, ça arrive, ça se présente, puis je me rappelle les grandes histoires d'amour que j'ai eues dans ma... Il y en a eu des réciproques aussi là, dans ma vingtaine. J'en ai pas eu tant que ça. J'en ai eu peut-être 3-4. Mais la dernière, ça remonte quand même à 2014. Puis je me sens comme prêt à être bien en amour présentement. Mais je sais aussi que quand je dis ça de façon un peu... Pas triste, mais peut-être un peu macabre, même pour certaines personnes. Je dis ça, puis je dis pas forcément que je suis prêt à être en amour avec quelqu'un qui m'aime. Mais en tout cas, je suis prêt à être en amour... vraiment follement, passionnément.
À vivre ce bouleversement-là.
À vivre une espèce d'obsessivité, puis d'être tellement amoureux, tellement intense, que tu fais tous tes moindres gestes pour plaire à quelqu'un, que tu t'habilles pour plaire à quelqu'un, puis qu'après ça, une fois que cette personne-là te rejette, t'écris un film. Mais j'ai envie d'écrire avec la brûlure, le vertige de l'amour. T'sais, j'ai envie d'écrire, puis d'être inspiré pour ça, puis de vouloir exister juste pour quelqu'un.
Mais est-ce que t'es prêt aussi, quand on tombe en amour, que les choses changent autour de soi? T'sais, ça veut dire que les liens, avec des fois, en amitié, vont se distancé ou tu tombes en cocon en amour. Fait qu'il y a quelque chose de métaphysique qui se passe autour aussi là.
Ça me dérange pas, j'ai pas peur de perdre un équilibre dans ma vie où les gens qui sont présents dans ma vie s'en iront pas parce que je tombe en amour et vont être bien tannés que je leur dise à chaque fois « Hey, regarde, viens de m'écrire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un signe? »
C'est ça l'amitié aussi. Hein?
C'est ça les amis, les gens sont là puis ils disent « Ah oh, non, vas-y. » Puis après ça, ben quand tu tombes, ils sont là pour t'attraper, tu sais, puis... J'ai pas peur que ça bouleverse l'équilibre de ma vie ou la façon dont les choses sont présentement en place. Mais j'aimerais ça que ça arrive. J'aimerais ça aussi que ce soit de façon, que ça se présente, tu sais, que j'ai pas à le convoquer ou à le provoquer. Tu sais, j'aimerais ça que ça me tombe dessus. Mais tu sais, j'y crois de moins en moins. Je sais que ça va se reproduire quand même dans ma vie, que je vais retomber en amour. En tout cas, j'espère. Chris, j'ai 30 ans. La vie va être longue sinon.
Fait que là, ce que t'es en train de dire, c'est que t'es pas en train d'écrire un film en cachette que tu vas nous arriver l'année prochaine en disant bang!
J'écris pas de film en cachette présentement.
OK.
J'écris pas de film en cachette. Peut-être que j'écris une mini-série en cachette.
Ben, je me demandais si t'étais prêt à aller à la télé.
Ça dépend quelle télé, ça dépend quel genre de télé.
Okay.
Je pense que c'est ardu de, tu sais, pour moi, ça fait 10 ans que je fais des films, puis je les fais vraiment à ma façon, à ma, tu sais, on les produit d'une façon qui est unique. Je pense qu'on se donne beaucoup de temps pour tourner. On tourne en 35 mm. C'est très dur de prendre ces normes-là, puis ces standards-là, puis de les appliquer au moule de la télévision québécoise, si tu veux, où on tourne excessivement rapidement, où il y a de moins en moins d'argent à chaque année, où il y a de moins en moins de revenus à travers les publicités parce que les gens sont de plus en plus sur les
plateformes. Donc, ce sera pas sur une plateforme québécoise.
Ben,
un Netflix quelconque.
Je pense pas que ce soit sur une plateforme québécoise. Je pense pas que je serais assez compétent pour diriger rapidement quelque chose comme ça, puis que ça répondrait moi à.
Parce que c'est en effet une forme de talent, d'expertise, de tourner dans ces conditions-là qui sont extrêmement serrées.
Ah, ça prend énormément de talent puis énormément de technique, puis j'ai des fois ni l'un ni l'autre dans certains contextes. Fait que il y a un ensemble de choses qui me rendent bon. Puis si on bouleverse trop cet ensemble-là, ce microcosme-là de création avec tel artiste, telle personne en 35 mm avec telle chose, je peux devenir mauvais. Fait que ça me tente pas.
Moi, je crois pas à ça que tu puisses devenir mauvais, Xavier Dolan. Non, écoute, un compliment en terminant.
Merci.
Ça va, prends-le.
Je le prends.
Bravo encore pour Mathias et Maxime.
Mais merci.
Me remplit de douceur.
C'était une très belle entrevue. Merci d'être venu nous voir.
Merci d'avoir reçu.
Mathias et Maxime sort le 9 octobre en salle. C'est un film de Xavier Dolan. Évidemment, vous l'aurez reconnu. Merci, Catherine. Merci, Xavier.